Donc très rapidement, Christiane Blanco, qui est membre du comité de direction de la PURE et qui aujourd'hui est responsable des travaux sur la métropole et qui a une longue carrière à la PURE. Elle s'est occupée de travailler sur le nord-est parisien, sur le schéma, elle a fait le schéma directeur des canaux de la Seine à la Villette. Elle était responsable de la coopération avec Phnom Penh à partir de 1990. Et puis, au sein de la PURE, elle est chargée au départ de la... Non, ça, c'est mon dossier. Oui. Je reconnais. Ça, c'est mon dossier. Merci, Jean-Louis.
C'est un truc qui vous
embête. Non, non, ça ne nous embête pas. C'est mes notes, mon dossier. Mais ils sont incroyables, ces anciens directeurs. Mais... Voilà ce que c'est à la PURE, voyez. Voilà. Et donc, Christiane a beaucoup défendu l'espace public et la transformation des bâtiments, considérant que le patrimoine, c'est ce qui est déjà là, et il faut surtout être attentif à ce patrimoine. Donc le 104, par exemple, faisait partie des bâtiments repérés par la PURE et qu'il convenait de conserver. Absolument. Nathan Starkman, qui est diplômé de l'École centrale des arts et manufactures, qui rentre à l'atelier parisien d'urbanisme en 1974 en qualité de chargé d'études, 1977 responsable de l'équipe en charge de toutes les études, et en 1984 adjoint de Nicolas Politis, et en 1989 directeur de la PURE. Donc il vous dira ce qu'il fait pendant ces années-là, parce qu'autrement je vais prendre trop de temps et je préfère que ce soit vous qui racontiez les histoires dont vous avez su être les auteurs. Et François Gréter, donc excusez-moi, j'ai oublié une chose importante, c'est que Nathan Starkman est Grand Prix de l'urbanisme. Et puis François Gréter, qui est Grand Prix de l'urbanisme également, est rentré à la PURE, alors lui, on ne me dit pas quand il y est rentré, mais ce n'est pas grave, en 70, pardon, voilà, en même temps que Jean-Louis, et il a créé sa propre agence en 92. Aujourd'hui, François Gréter, ce qu'on connaît de lui à Paris et que vous connaissez, alors lui, il vous parlera de Paris Rive Gauche, je pense, en tout cas, puisque c'est l'époque de François Gréter où on a fait la première infrastructure, proposé cette infrastructure sur le faisceau ferroviaire. Et ce qu'on connaît de François Gréter à Paris, que vous connaissez peut-être plus pour les plus jeunes, c'est la ZAC de Batignolles. Je vois Jean-François Danon qui est là, et à l'époque qui était destiné à recevoir le village olympique. Mais ça, nous en reparlerons un peu plus tard. Donc je vous laisse la parole. Je ne sais pas dans quel ordre vous avez choisi d'intervenir, ou c'est Christiane qui organise votre séquence. Voilà.
Ça marche ? Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Alors moi aussi, je vais dire...
Par contre, il faut parler bien dans le micro, tu le colles à ton menton ou un truc comme ça.
Ça commence bien. Moi aussi, je vais dire que c'est pas sans une certaine émotion que je reviens parler dans ces lieux presque 20 ans après. Et puis, pour commencer, je dirais que c'est pas si facile de parler après les gens qui ont tout inventé, puisque en fait la période 84-2000 sur laquelle je vais parler est une période qui s'inscrit dans les idées que Jean-Louis et Léonore ont développées, mais au milieu des années 80, ces idées, elles sont encore largement sur le papier. Même si on a commencé à réviser les opérations d'urbanisme qui étaient déjà lancées, on est encore au début de la fabrication. Donc en 84, l'IGN s'en va, le directeur historique de la PURE s'en va. On aura peut-être l'occasion de dire pourquoi, ce n'est pas inintéressant. Et donc Nicolas Politis, dont le nom a été cité, et vous avez vu la photo barbue, lui succède. Alors moi, je voudrais rendre un hommage à Nicolas Politis. C'était un grand ami personnel. C'est lui qui m'a fait venir à la PURE. Mais c'était aussi quelqu'un qui était extrêmement engagé, très imaginatif, très drôle, en plus. Et je pense que même s'il a été directeur une période relativement courte, la PURE lui doit le travail de la PURE lui doit beaucoup. Alors la période milieu des années 80-2000, pour moi, c'est une période de réalisation. Les idées vont prendre corps. On va les voir sur le terrain. Vous verrez d'ailleurs sur les photos qui défilent peut-être déjà. Vous verrez essentiellement des grandes transformations. Il y en a eu beaucoup de petites en même temps. Mais c'est une période vraiment où le nouvel urbanisme, on a appelé ça le retour à la ville souvent, se concrétise. Pour la pure, c'est évidemment une période de travail sur cette concrétisation, mais c'est encore une période d'approfondissement des idées, d'invention, beaucoup sur les méthodes de travail. Je vais en dire un mot, et je pense que François en dira plus que moi sur ces sujets. Alors, qu'est-ce que fabrique la pure pendant toute cette période ? Une première chose qui mérite d'être dite, c'est la poursuite du travail de connaissance de la ville, de connaissance des évolutions de la ville. Je pense que c'est la pierre fondatrice. C'est là-dessus qu'est bâtie la compétence de l'atelier pour faire ses propositions. Ça a débouché sur quelques outils cartographiques magnifiques. Malheureusement, je pense qu'ils ne sont pas dans la projection, mais qui montrent une connaissance du terrain extrêmement fine et très très précieuse pour le travail de l'atelier. Alors le travail de l'atelier est quand même essentiellement centré sur la préparation des opérations. Alors par rapport à la période précédente, je crois qu'il faut dire que la pure ne travaille pas seule, il ne travaille plus seul. On n'est plus dans l'opposition, dans la communauté délinquante de Jean-Louis. Le travail se fait beaucoup avec les services de la ville, avec les SEM, puisqu'il s'agit de réaliser. Les grands objectifs sont communs. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des débats, parfois plus ou moins difficiles, mais c'est un travail commun, et c'est un travail à toutes les échelles. C'est-à-dire que là, vous voyez dans les images, moi je ne les vois pas, vous voyez des grandes transformations, je l'ai déjà dit, il y en a aussi une multitude de toutes petites qui changent la vie d'un quartier et qui sont tout aussi importantes que les grandes. Alors d'abord, sur le travail de l'atelier, il faut dire d'abord que c'est un travail essentiellement centré sur les opérations publiques. La ville de Paris a une très grande maîtrise foncière dans cette période-là, et elle utilise cette maîtrise foncière. Alors c'est en particulier le temps de la mutation des grandes emprises industrielles, Citroën, La Villette, beaucoup d'autres, et des terrains ferroviaires qui vont accueillir les nouveaux quartiers parisiens. C'est le temps du Cap à l'Est, donc un projet de rééquilibrage de Paris vers l'Est, à partir d'un document qui s'appelle le Plan Programme de l'Est de Paris, qui est passé au Conseil de Paris en 83. Ce document, ça n'est pas un plan, ça n'est pas non plus un programme. C'est une sorte de cap, d'image, de vision du futur. Et les grandes priorités, c'est le nord-est, autour du bassin de la Villette, et le sud-est de Paris, sur la rive droite, Bercy, et sur la rive gauche, ce qui deviendra le quartier Tolbiac. La rive gauche, c'est une grande affaire de cette période. Le projet est mis au point pendant les années 80. La mise en œuvre commence au début des années 90. Le projet se continue d'ailleurs aujourd'hui encore. On a complètement oublié certains débats qu'a suscité ce projet. Et en particulier, au début des années 90, quand le projet est adopté, on est dans une période de crise immobilière très dure, une crise immobilière qui touche essentiellement le marché des bureaux. Donc, il y a des débats très vifs autour de la question de savoir si, oui ou non, il est possible de créer un nouveau pôle de bureaux dans ce quartier. Et moi, je me souviens, ça peut paraître aujourd'hui assez étonnant, de prise de position, de politiques, de techniciens, expliquant que jamais aucune entreprise ne viendra occuper des bureaux dans ce secteur, et donc il faut revoir le projet. Et sur ce projet-là, et sur d'autres projets parisiens, le débat sur les bureaux est un grand débat qui a traversé les années 1990. Alors, ces grandes opérations publiques, grandes et petites, c'est aussi l'occasion de rénover les méthodes, de trouver de nouveaux moyens de développer les quartiers. Donc ce sont des consultations de maître d'œuvre. On ouvre des consultations de maître d'œuvre. Des dispositifs de coordination sont mis en place dans les opérations. Et il y a aussi, j'espère que François en dira un mot, une volonté d'ouverture de la commande architecturale avec le pavillon de l'Arsenal qui travaille beaucoup sur ce sujet à ce moment-là. Je précise que toutes ces affaires de consultation, de coordination, étaient à l'époque extrêmement peu réglementées. Donc on était vraiment dans l'invention de dispositifs. Un petit mot sur les grands projets de l'État, mais Jean-Louis l'a dit, l'APUR a beaucoup œuvré à rendre les projets de l'État possibles, à travailler sur les projets de l'État, y compris sur le projet de l'exposition universelle de 89, projet qui a avorté suite à des désaccords politiques, et c'est l'échec de l'expo U de 89 qui a suscité la démission et le départ de Pierre-Yves Digène. Donc, travail sur les grands projets publics, également un travail sur les tissus urbains existants, puisque progressivement, on va se rendre compte que le POS, très différent de ce qu'il y avait avant, très protecteur, n'est pas adapté à beaucoup de quartiers spécifiques. Les quartiers de petite échelle, les quartiers avec les grandes cours, comme le Faubourg Saint-Antoine, sont fortement bousculés par le mouvement immobilier et donc vont arriver toute une série de POS sur mesure, de règlements sur mesure, pour essayer de défendre ces quartiers. Alors c'est une défense qui est morphologique, mais pas seulement. C'est aussi une défense des activités, une tentative de maintenir sur place ou de freiner le départ des activités industrielles et artisanales. Bon, la suite montrera que c'est beaucoup plus difficile à faire. Une chose encore qu'il faut dire et qui renvoie à une question qui a été posée, c'est aussi la montée d'une contestation des opérations d'urbanisme qui sont estimées par des associations, pas seulement, trop brutales. Donc il y a une demande de plus de douceur, de moins d'intervention. Et on va découvrir la concertation. Il y a une très forte demande de concertation de la part des associations. Et on va découvrir la concertation, moi je dirais, un petit peu sur le tas, pas toujours dans la facilité, hein, parfois dans la bagarre. Là encore, cette concertation s'invente alors que les textes sont extrêmement pauvres. Il n'y a pas grand-chose qui est dit par les textes à ce moment-là sur les obligations de concerter. On est très loin des dispositifs actuels. Un autre point majeur du travail de l'APUR, ce sont les espaces publics. Donc c'est une période très faste pour les parcs et jardins, quelques dizaines de parcs et jardins nouveaux, et en particulier Bercy-Citroën, des parcs qui avaient été prévus déjà de longue date, et qui vont sortir de concours internationaux qui ont été préparés par l'atelier. Mais aussi pour les espaces publics, un travail sur la voirie, la récupération des espaces de voirie, c'est le boulevard Richard Lenoir, les Champs-Élysées, je pense que vous voyez les images, j'espère, etc. Les objectifs sont toujours les mêmes, en gros. Hein, plus de place pour les piétons, pour les transports en commun, moins de place pour la voiture, avec des différences assez grande par rapport à aujourd'hui. Alors d'abord, je crois qu'on était beaucoup plus sensible au tracé et à la qualité spatiale. Ces préoccupations-là me semblent avoir pas mal reculé quand on voit aujourd'hui des idées de bâtir sur les quais hauts, par exemple, ou dans les grands espaces traditionnels de la ville. On était aussi, on croyait à une certaine homogénéité de l'espace parisien, un aspect parisien des espaces publics. Il y a eu une tentative qui n'a pas abouti de faire un guide de l'espace public qui dirait ces choses-là. Mais dans tous ces projets d'espace, je serais moins optimiste que Léonore tout à l'heure. On restait quand même avec des contraintes qui étaient fluidité de la circulation, proposer des places de stationnement, créer du stationnement, stationnement souterrain, essentiellement. On n'était pas sorti de ces contraintes automobiles, et on en est sorti, à mon avis, au début des années 2000 seulement, quand ont émergé, plutôt quand sont devenues prioritaires, les préoccupations des défis écologiques et même des préoccupations de santé, qui font que le paradigme a été modifié. Ce n'est plus les mêmes priorités dans les aménagements de l'espace public aujourd'hui. Alors, pour finir, il y a un autre point qui me paraît important, même s'il n'occupait pas beaucoup de place dans le travail de la PURE, ce sont les réflexions à plus grande échelle. La PURE s'était engagée au milieu des années 80 dans un travail sur les portes. Les portes de Paris, le territoire de la couronne à l'intérieur de Paris. Ce travail s'est élargi avec l'IAURIF. On arrivait à collaborer bien, quelquefois, avec nos collègues de la région. Donc il s'est élargi à un travail de part et d'autre de la limite. Et il en est même résulté en 1989 une proposition d'ouvrir la PURE aux communes riveraines. Il y a une modification des statuts qui a été proposée. Bon, tout ça, c'est enlisé dans les sables. Ça n'a pas eu beaucoup d'écho côté ville de Paris. On n'a pas senti un grand élan des élus. Et je dirais que côté banlieue, c'était pire encore. La crainte de Paris était telle qu'il n'était pas question pour les élus d'entrer dans la machine de la ville de Paris. Et surtout, au début des années 90, on commence à réfléchir à la révision du schéma directeur régional. Et il y a un livre blanc qui est publié en 90, auquel la PURE a contribué. Et dans ce livre blanc, va proposer des modifications très importantes des politiques d'aménagement régional. Alors j'en cite deux, ce ne sont pas les seuls. La banlieue arrive, la première couronne devient un secteur clé du futur de l'aménagement de la région. Elle n'existait pas, la première couronne, dans les documents antérieurs. On passait directement de Paris aux villes nouvelles. Et puis, dans cette même ligne, les grands projets parisiens, au nord de Paris et au sud-est, deviennent les têtes de pont de projets territoriaux qui sont censés changer la région. D'ailleurs, bon, on est encore en attente de la réussite de ces projets territoriaux. Mais il y a un revirement, c'est l'esquisse d'une politique métropolitaine qui apparaît et qui sera confirmée par le schéma directeur de 1994. Voilà, je vais m'arrêter parce que je dois être déjà un peu long. Je n'ai pas parlé de la coopération décentralisée, je crois que les images en montrent des exemples. Phnom Penh, dont le porteur du travail de la PURE à Phnom Penh est à côté de moi, Christiane Blanco. On a aussi pas mal travaillé en Amérique du Sud, mais quand on travaille sur Paris, quand on a la chance de bosser sur Paris, on est regardé de partout et on est beaucoup sollicité pour aider les autres villes. Et je voudrais juste terminer sur un petit mot plus personnel. En 1999, j'ai été lauréat du Grand Prix de l'urbanisme avec Philippe Panneret. Moi, je ne suis ni architecte, ni paysagiste, donc je n'ai pas beaucoup de titres pour signer des projets d'aménagement. Et donc, je l'avais dit au moment de la réception du Grand Prix, je crois que ce qui a été honoré par ce prix, c'est le travail de toute une équipe de très très grande qualité, et je ne voulais pas ne pas saisir l'occasion de la saluer, puisqu'un certain nombre de ses représentants sont ici.
François.
Starkman a brossé un rapide survol d'une longue période que je n'ai pas connue jusqu'au bout, parce que j'ai un peu pris part à la période précédente, puisque je suis arrivé en 70, et je ne peux témoigner que jusqu'en 92, où j'ai quitté la PURE. Je reviens sur quelques points que Starkman a juste évoqués rapidement. Effectivement, les années 80, à partir du plan programme de l'Est, c'est une période très intensive de mise en œuvre de projets urbains, petits, moyens, plus grands, et assez nombreux. Et ça se fait de manière très active et surtout à partir de cette situation à pure plus direction de l'urbanisme, puisque au départ, les gènes étaient cumulés les deux directions. Ce qui donnait beaucoup d'avantages à nous, puisque nous étions hors, on circulait entre les structures très, très organisées de l'administration et puis la liberté que donne un atelier sans hiérarchie, sans spécialité. Cette période très active a été aussi celle de l'arrivée d'une nouvelle génération d'architectes. Et je pense que nous avons un peu aidé à cette l'émergence de cette génération à travers, de manière assez discrète, un travail sur l'organisation de la commande de la ville pour l'ensemble des projets où la ville intervenait, même au-delà. Il y avait également la RIVP avec Lombardini, qui a contribué beaucoup. Ça vient un peu tard, mais ça a un mérite, c'est que ça a montré que le règlement des années 70, que d'ailleurs on a essayé de simplifier dans les années 80, n'était pas un modèle d'architecture, que ce règlement était conçu dans une logique d'organisation, de forme, de disposition urbaine, sans préjuger de la traduction architecturale. Et dans la période qui a suivi, on nous a beaucoup accusés, c'est pour ça que je veux venir sur ce débat, à la fois de passéisme, de pastiche, et il y a des réalisations dans Paris de la période qui sont des espèces de mauvais pastiches de quelque chose qui serait une architecture d'avant, on ne sait pas laquelle, et puis d'haussmannisme et d'architecture haussmannienne. Je pense que les années 80 montrent que le règlement et toutes ces dispositions permettent l'expression de tous les courants de la période. Je ne sais pas, d'Edith Girard, Gaudin, à Francis Soler, on pourrait en citer beaucoup, je ne veux pas m'étendre, mais des architectures extrêmement variées. Et je pense que c'est important parce que, au-delà du travail de projet que pouvait produire la pure, il y a après une mise, un travail vers le concret, vers la réalisation qui est fait par d'autres et qui enrichit les visions. Et je vais y revenir en parlant de concertation après. Donc voilà, cette période pour moi c'est ça et je crois que au bout des années 80, un peu avant, ça a commencé à ronronner et à tourner, de mon point de vue, un peu une certaine forme de routine. Avec, à la pure, se font des plans masses, des projets qui s'expriment à travers des plans masses simplifiés, qui ensuite sont traduits en règlements. À l'époque, il y avait des règlements particuliers pour les zones d'aménagement. Ça a très bien fonctionné, je crois que ça a été efficace, mais ça bougeait moins, il y avait moins d'interrogations, de mise en doute, de réflexion de fond, puisque quand vous êtes pris dans l'action, vous n'avez plus le temps, vous n'avez plus le recul pour revenir sur un certain nombre d'orientations ou de principes. Et c'est à ce moment-là que s'ouvre la question de Paris-Rive-Gauche. Pour moi, c'est en 85 ou 7, je ne me rappelle plus très bien, plutôt 7, hein, 85. Et ce n'était pas Paris-Rive-Gauche, c'était Tolbiac, c'est-à-dire entre les ponts de Bercy et Tolbiac, 15 hectares, qui étaient libres, qui avaient été libérés en vue de l'exposition universelle ou des Jeux Olympiques, enfin des candidatures JO, Expo Universelle successives. Et là, devant ce grand terrain vide en bord de Seine, entre Seine et voies ferrées, d'un seul coup, on se repose la question de nos méthodes et on se demande si on peut continuer à faire des plans masses comme ça et à produire des plans masses. C'est plus vaste que beaucoup d'autres projets. Et puis, il y a une situation qui commande, parce que finalement, dans les évolutions de la ville, il y a une part de l'organisation des lieux et de leur histoire qui commande les choses. Il y a donc une grande interrogation. Et à l'époque, on a envisagé, avec un succès limité, de voir un grand débat avec beaucoup d'autres, avec des universitaires, avec des gens des médias, avec des élus, sur comment aborder le sujet, comment, quelle méthode mettre en œuvre pour élaborer un projet. Et c'est là que l'on a lancé un système de consultation, avec une première consultation qui n'était pas du tout destinée à choisir, qui était destinée à faire, et ceux qui y ont participé le savaient, étaient prévenus, c'était une consultation rapide, faites-nous des propositions, des projets pour les 15 hectares de Tolbiac, et ça servira de décor pour le débat qu'on veut lancer. On aura donc des pistes très différentes, un projet moderno, pour tout dire par Granvaux, un projet traditionnaliste, c'était Huette Bijelman, un projet plus libre, c'était Montès, un projet, et le quatrième, c'était qui Wexler, un projet plus urbanistique, peut-on dire, avec André Wexler. Et chaque fois, cela a permis, bon, le débat a eu lieu, mais il n'a pas eu l'ampleur que l'on pouvait souhaiter, nous, mais il a eu lieu, il a permis de rebondir, et petit à petit, s'est imposé, un certain nombre d'idées se sont imposées. D'abord, que les enjeux qui se trouvaient à Tolbiac allaient tout le long de la Seine sur un beaucoup plus grand territoire, tout le long des voies ferrées, pouvaient se prolonger au-delà du périphérique, commençaient à Austerlitz, et la dimension du projet s'est affirmée d'approches successives de l'une à l'autre. Donc je crois que ça, c'est un moment important dans la manière d'aborder les sujets en sortant un peu de ce qui avait été mis au point précédemment, en ouvrant la réflexion à beaucoup d'autres. Et d'autres consultations ont suivi progressivement jusqu'à l'arrivée de la Bibliothèque de France. Et un deuxième point sur lequel je veux dire un mot, mais je ne veux pas être long, c'est celui de la coordination architecturale des projets urbains. Et là, j'ai un point de vue personnel, donc ce n'est pas le point de vue de la pure en général. Je pense que, un de mes soucis, c'est d'être de son temps, d'être d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est être de son temps ? Et comment on se place dans le mouvement des idées et des actions. Il y a eu à la pure, pour un certain nombre de projets, la volonté, et puis par la ville aussi, avec la direction de l'urbanisme, de coordonner les différentes constructions, les différentes architectures dans un projet urbain pour leur donner plus de cohérence, plus d'unité, etc. Moi, je ne partage pas ce point de vue parce que je pense que l'on n'est plus dans des époques. Notre époque n'est plus celle d'un pouvoir très fort, n'est plus celle d'une culture très unifiée, et que l'on ne fait plus les places royales aujourd'hui ou les grands ou la rue de Rivoli, etc. Notre époque est avant tout celle de la diversité tous azimuts, de la diversité des idées, des goûts, etc., de la culture. Et que les projets doivent absorber ça. D'autre part, la ville n'est pas faite par des auteurs, mais elle est le résultat de millions, de milliards de contributions qui jouent entre elles, qui s'ajoutent ou qui se contredisent, et que dans les développements urbains et dans les aménagements, il faut laisser place à l'expression des autres acteurs, des maîtres d'ouvrage, des architectes, des paysagistes, et que chacun puisse, dans un cadre un peu préparé, organisé, ajouter son point de vue, même si ce n'est pas le même que celui de l'urbanisme qui a fait le plan d'ensemble. Donc, pour Paris Rive Gauche, la question se posait... Je suis trop long ? Bon, j'en finis. C'est le dernier point que je voulais évoquer. Moi, je suis allé jusqu'à l'approbation des documents de base de ce projet, qu'à l'époque on appelait Seine-Rive-Gauche, après s'être appelé Austerlitz-Solbiac-Masséna. Donc moi, je n'ai pas pris part après à sa mise en œuvre réelle, si ce n'est aux tout premiers éléments. Voilà, mais je ne veux pas être plus long et je vais passer la parole à Christiane.
Merci François. Alors moi, on m'a donné... Moi, je vais vous parler d'un sujet plus particulier qui est les travaux qu'on faisait sur l'espace public. Alors évidemment, les travaux sur les espaces publics parisiens, dans cette période-là, ils s'articulent complètement avec les projets d'aménagement du nord-est, du sud-est, dont on a déjà beaucoup parlé, mais pas que. Et surtout, ça va être un temps où on va développer toute une série de principes qui vont présider à l'élaboration de ces espaces publics. Alors, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'on a des complices, c'est-à-dire que c'est pas seulement les architectes, notamment de l'atelier parisien d'urbanisme, c'est pas seulement les ingénieurs de l'atelier parisien d'urbanisme, mais on a des complices. On a aussi des gens qui s'opposent à nous, et Nathan a parlé de la voiture et de la nécessité de garder à ce moment-là la circulation fluide, etc. Mais on a des complices à la direction de la voirie, notamment avec les architectes Voyer. On a des complices à la direction qui s'appelle à l'époque les parcs et jardins. Et on arrive comme ça à mettre en place quelques principes. Alors, c'est quoi le contexte ? Le contexte, au début des années 80, moi j'arrive à la pure seulement déjà en 83, il s'agit tout d'abord il y a toute une politique qui est engagée de réalisation des parkings souterrains. C'est-à-dire, vous l'avez vu dans les images, notamment de la première partie, on est déjà dans une période où on veut enlever les voitures de l'espace public, on veut faire de la place, et donc il y a toute une politique de création de parkings souterrains. En revanche, on est dans un contexte qu'il faut imaginer à l'époque. On a très peu conçu d'espace public depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que les projets de rénovation des années 60, que ce soit la place des Fêtes, le quartier Olympiade, etc., sont des quartiers qui ont fabriqué des dalles, qui ont fabriqué une séparation des voitures et des piétons qui étaient sur ces principes-là. Et donc, les rues, les avenues, les boulevards, etc., n'ont pas été créés. Il n'y a pas de nouveaux espaces qui ont été créés depuis, en gros, la fin des années 30. Et donc, cette situation est très particulière. Le deuxième élément, c'est évidemment... Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'abord de faire une reconquête sur l'automobile. Ça, c'est très clair pour tout le monde. Et cette reconquête, ça va être les projets du canal Saint-Martin, des Champs-Élysées, etc., pour enlever les voitures et pour récupérer des espaces qui sont des espaces qui étaient devenus des contre-allées, voitures, etc., avec cette idée d'abord de faire de la place. Le deuxième objectif, c'était d'intégrer ces lieux dans Paris. Il y avait cette idée, et notamment dans tous les quartiers, le 19e arrondissement, le 20e, le 13e, etc., que les grandes rénovations des années 60, finalement, ça faisait qu'on avait créé des espaces de banlieue. C'est-à-dire que on avait cette idée-là. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait des tours, des bars, etc., c'était comme les grands ensembles de la banlieue. Et donc, il y avait un enjeu qui était de réintégrer ces espaces dans Paris et de dire comment on fait pour réintégrer ces espaces dans Paris. Et là, l'étude Loyer, un certain nombre de choses, avait fait un pas qui était de dire eh ben, il faut retourner vers un modèle qui est celui des grandes promenades de Paris, de l'haussmannisme, etc. L'haussmannisme, non pas vu comme étant la rénovation, mais vu comme la fabrication d'un espace public moderne, large, etc., qui permet d'imaginer une ville et une échelle métropolitaine de la ville. Alors, et donc de leur trouver une identité. Et donc, il fallait trouver une identité et on va chercher les modèles dans l'avant-rénovation, dans la période haussmannienne, non pas pour son esthétique propre, mais parce qu'il y avait cette idée de l'esthétique. C'est-à-dire parce qu'il y a dans cette période de l'Haussmannie l'idée de l'embellissement. Et donc l'idée, c'était que si on voulait réintégrer ces espaces dans Paris, il fallait les embellir et qu'il fallait travailler fabriquer de la beauté. C'est écrit dans le plan programme de l'Est parisien. Ces quartiers-là ne sont pas beaux et il va falloir les rendre beaux. Et c'est écrit dans le plan programme. Et donc, la politique sur les espaces publics va être faite là-dessus. Quel est le modèle à l'époque ? C'est Barcelone. Tout le monde regarde Barcelone. Barcelone qui, depuis la fin du franquisme, a mis en place tout un système pour faire des places là où il y avait des terrains vagues dans les quartiers anciens. Il prépare les Jeux Olympiques, quand même, de 92, qui vont gagner. Paris va les perdre, mais bon. Donc, et y a là un modèle, et tout le monde va à Barcelone. Et si on ne va pas à Barcelone, alors on n'a pas très bien compris. La deuxième chose, c'est qu'il s'agissait donc de reconvertir des lieux qui avaient été dédiés à la voiture. Donc on hérite de la rue de Flandre, de l'avenue d'Italie, etc., élargie à 40 à 50 mètres, en partie, complètement. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, tout le vocabulaire qui va être utilisé va être celui des grands alignements d'arbres, des grands trottoirs, et on récupère de l'espace sur la chaussée, puisqu'il faut savoir que dans les années 60, on avait élargi les chaussées au détriment des trottoirs, sur, y compris toutes les grandes avenues parisiennes. La deuxième chose, c'est il faut créer des nouveaux espaces publics et reconvertir des lieux pour les réintégrer dans la ville. Le projet du bassin de la Villette, ça va être ça. Ça va être, on ouvre un port qui est fermé, qui est clos avec des entrepôts, on enlève les grilles, on enlève les entrepôts et on fait du vide. Et notre idée à cette époque-là, c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire du vide. On est dans une ville dense, on a besoin de vide et on a besoin d'espace calme. Et on se méfie beaucoup d'une pensée fonctionnaliste. On sort de la séparation piéton-voiture. Donc ce qu'on veut surtout, c'est penser des espaces qui n'aient pas de fonction, qui n'est pas de ne pas les penser à partir de leurs fonctions, ce qu'on avait fait très fortement dans les années 60, piéton-voiture, etc., mais de les penser comme une structure qui pouvait ensuite accueillir n'importe quel usage que l'on ne pouvait même pas imaginer à l'époque, mais de le faire comme on avait fait avec les espaces haussmanniens, qui avaient été conçus à une époque et qui ensuite avaient pu intégrer toutes les transformations technologiques, l'arrivée du métro aérien, de la voiture, etc. Et donc on se disait, ben, c'est la même chose. Il y a une pérennité de l'espace, il n'a pas de fonction a priori, il est support de toutes les fonctions. Et donc c'était ça l'idée. Et donc là-dessus, il y avait des débats sur comment on fait les bordures de trottoir, comment on fait les bordures de trottoir pour empêcher les voitures à la fois d'arriver à nouveau sur les trottoirs et comment on fait aussi pour les dessiner de façon à ce qu'ils aient un design, etc. Donc je voulais juste vous dire ça et vous dire que ça s'appuyait aussi sur des études de circulation, sur ce qu'on appelait l'enquête générale transport, etc., etc., qui nous permettait d'avoir des arguments contre quand même une partie de la ville qui était notamment dans la direction de la voirie et les ingénieurs de la direction de la voirie. Et c'était une bagarre continue pour enlever une file supplémentaire quand on faisait le boulevard Richard Lenoir, etc., de façon à récupérer le maximum d'espace. Merci beaucoup.